Deuxième partie de Monsieur Parent. Parent vécut seul, tout à fait seul. Pendant les premières semaines qui suivirent la séparation, l'étonnement de sa vie nouvelle l'empêcha de songer beaucoup. Il avait repris son existence de garçon, ses habitudes de flânerie, et il mangeait au restaurant comme autrefois. Ayant voulu éviter tout scandale, il faisait à sa femme une pension réglée par les hommes d'affaires. Mais peu à peu, le souvenir de l'enfant commença à hanter sa pensée. Souvent, quand il était seul chez lui le soir, il s'imaginait tout à coup entendre Georges crier « Papa !». Son cœur aussitôt commençait à battre et il se levait bien vite pour ouvrir la porte de l'escalier et voir si, par hasard, le petit ne serait pas revenu. Oui, il aurait pu revenir, comme reviennent les chiens et les pigeons. Pourquoi un enfant est-il moins d'instinct qu'une bête? Après avoir reconnu son erreur, il retournait s'asseoir dans son fauteuil, et il pensait au petit. Il y pensait pendant des heures entières, des jours entiers. Ce n'était point seulement une obsession morale, mais aussi, et plus encore, une obsession physique, un besoin sensuel, nerveux, de l'embrasser, de le tenir, de le manier, de l'asseoir sur ses genoux, de le faire sauter et culbuter dans ses mains. Il s'exaspérait au souvenir enfiévrant des caresses passées. Il sentait les petits bras serrant son cou, la petite bouche posant un gros baiser sur sa barbe, les petits cheveux chatouillant sa joue. L'envie de ses douces câlineries disparut, de la peau fine, chaude et mignonne offerte aux lèvres, l'affolait comme le désir d'une femme aimée qui s'est enfuie. Dans la rue, tout à coup, il se mettait à pleurer en songeant qu'il pourrait la voir, trottinant à son côté avec ses petits pieds, son gros Georges comme autrefois quand il le promenait. Il rentrait alors et la tête entre ses mains sanglotait jusqu'au soir. Puis 20 fois, 100 fois en un jour, il se posait cette question, était-il ou n'était-il pas le père de Georges? Mais c'était surtout la nuit qu'il se livrait sur cette idée à des raisonnements interminables. À peine couché, il recommençait chaque soir la même série d'argumentations désespérées. Après le départ de sa femme, il n'avait plus douté tout d'abord. L'enfant, certes, appartenait à Limousin. Puis peu à peu, il se remit à hésiter. Assurément, l'affirmation d'Henriette ne pouvait avoir aucune valeur. Elle l'avait bravé en cherchant à le désespérer. En pesant froidement le pour et le contre, il y avait bien des chances pour qu'elle eût menti. Seul Limousin, peut-être, aurait pu dire la vérité. Mais comment savoir? Comment l'interroger? Comment le décider à avouer? Et quelquefois, Parent se relevait en pleine nuit, résolu à aller trouver Limousin, à le prier, à lui offrir tout ce qu'il voudrait pour mettre fin à cette abominable angoisse. Puis il se recouchait désespéré, ayant réfléchi que l'amant aussi mentirait sans doute. Il mentirait même certainement pour empêcher le père véritable de reprendre son enfant. Alors que faire? Rien. Et il se désolait d'avoir ainsi brusqué les événements, de n'avoir point réfléchi, patienté, de n'avoir pas su attendre et dissimuler pendant un mois ou deux, afin de se renseigner par ses propres yeux. Il aurait dû feindre de ne rien soupçonner et les laisser se trahir tout doucement. Il lui aurait suffi de voir l'autre embrasser l'enfant pour deviner, pour comprendre. Un ami n'embrasse pas comme un père. Il les aurait épiés derrière les portes. Mais comment n'avait-il pas songé à cela? Si Limousin demeurait seul avec Georges, n'avait point aussitôt saisi, serré dans ses bras, baisé passionnément, s'il l'avait laissé jouer avec indifférence, sans s'occuper de lui, aucune hésitation ne serait demeurée possible. C'est alors qu'il n'était pas, il ne se croyait pas, il ne se sentait pas le père. De sorte que lui, parent, en chassant la mère, regardait son fils, et il aurait été heureux, tout à fait heureux. Il se retournait dans son lit, suant et torturé, et cherchant à se souvenir des aptitudes de Limousin avec le petit. Mais il ne se rappelait rien, absolument rien. Aucun geste, aucun regard, aucune parole, aucune caresse suspecte. Et puis la mère non plus ne s'occupait guère de son enfant. Si elle l'avait eu de son amant, elle l'aurait sans doute aimé davantage. On l'avait donc séparé de son fils par vengeance, par cruauté, pour le punir de ce qui les avait surpris. Et il se décidait à aller dès lors recueillir les magistrats pour se faire rendre Georget. Mais à peine avait-il pris cette résolution qu'il se sentait envahi par la certitude contraire. Du moment que Limousin avait été, dès le premier jour, l'amant d'Henriette, l'amant aimé, elle a vu se donner à lui avec cet élan, cet abandon, cette ardeur qui rendent mères les femmes. La réserve froide qu'elle avait toujours apportée dans ses relations intimes avec lui, parent, n'était-elle pas aussi un obstacle à ce qu'elle eût été fécondée par son baiser? Alors il allait réclamer, prendre avec lui, conserver toujours et soigner l'enfant d'un autre. Il ne pourrait pas le regarder, l'embrasser, l'entendre dire « papa » sans que cette pensée le frappât, le déchirât. Ce n'est point mon fils. Il allait se condamner à ce supplice de tous les instants, à cette vie de misère. Non, il valait mieux demeurer seul, vivre seul, vieillir seul et mourir seul. Et chaque jour, chaque nuit, recommençait ses abominables hésitations et ses souffrances que rien ne pouvait calmer ni terminer. Il redoutait surtout l'obscurité du soir qui vient, la tristesse des crépuscules. C'était alors sur son cœur comme une pluie de chagrin, une inondation de désespoir qui tombait avec les ténèbres, le noyait et l'affolait. Il avait peur de ses pensées comme on a peur des malfaiteurs. Il fuyait devant elle ainsi qu'une bête poursuivie. Il redoutait surtout son logis vide, si noir, terrible, et les rues désertes aussi, où brille seulement de place en place un bec de gaz, où le passant isolé qu'on entend de loin semble un rôdeur et fait ralentir ou hâter le pas selon qu'il vient vers vous ou qu'il vous suit. Les parents, malgré lui, par instinct, allaient vers les grandes rues illuminées et populeuses. La lumière et la foule l'attiraient, l'occupaient, l'étourdissaient. Puis, quand il était là, d'errer, de vagabonder dans les remous du public, quand il voyait les passants devenir plus rares et les trottoirs plus libres, la terreur de la solitude et du silence le poussait vers un grand café plein de buveurs et de clarté. Il y allait comme les mouches vont à la flamme, s'asseyait devant une petite table ronde et demandait un bock. Il le buvait lentement, s'inquiétant chaque fois qu'un consommateur se levait pour s'en aller. Il aurait voulu le prendre par le bras, le retenir, le prier de rester encore un peu, tant il redoutait l'heure où le garçon, debout devant lui, prononcerait d'un air furieux « Allô, monsieur, on ferme !» Car chaque soir, il restait le dernier. Il voyait rentrer les tables, éteindre un à un les becs de gaz, sauf deux, le sien et celui du comptoir. Il regardait d'un œil navré la caissière compter son argent et l'enfermait dans le tiroir, et il s'en allait, poussé dehors par le personnel qui murmurait « Ben voilà, non poté, on dirait qu'il s'est pas couché. » Et dès qu'il se retrouvait seul dans la rue sombre, il recommençait à penser à Georges et à se creuser la tête, à se torturer la pensée pour découvrir s'il était ou s'il n'était point le père de son enfant. Il prit ainsi l'habitude de la brasserie où le coudoiement continu des buveurs « Mais près de vous un public familier et silencieux, où la grasse fumée des pipes endort les inquiétudes, tandis que la bière épaisse alourdit l'esprit et calme le cœur. » Il y vécut. À peine levé, il allait chercher là des voisins pour occuper son regard et sa pensée. Puis, par paresse de se mouvoir, il prit bientôt ses repas. Vers midi, il frappait avec sa soucoupe sur la table de marbre, et le garçon apportait vivement une assiette, un verre, une serviette et le déjeuner du jour. Dès qu'il avait fini de manger, il buvait lentement son café, l'œil fixé sur le carafon d'eau-de-vie qui lui donnerait bientôt une bonne heure d'abrutissement. Il tremblait d'abord ses lèvres dans le cognac, comme pour en prendre le goût, cueillant seulement la saveur du liquide avec le bout de la langue. Puis il se le versait dans la bouche, goutte à goutte, en renversant la tête, promenait doucement la forte liqueur sur son palais, sur ses gencives, sur toute la muqueuse de ses joues, la mêlant avec la salive claire que ce contact faisait jaillir. Puis, adouci par ce mélange, il l'avalait avec recueillement, la sentant couler tout le long de sa gorge jusqu'au fond de son estomac. Après chaque repas, il sirotait ainsi pendant plus d'une heure, trois ou quatre petits verres qui l'engourdissaient peu à peu. Alors il penchait la tête sur son ventre, fermait les yeux et somnolait. Il se réveillait vers le milieu de l'après-midi et tendait aussitôt la main vers le boc que le garçon avait posé devant lui pendant son sommeil. Puis, l'ayant bu, il se soulevait sur la banquette de velours rouge, relevait son pantalon, ramassait son gilet pour couvrir la ligne blanche aperçue entre les deux, secouait le col de sa jaquette, tirait les poignets de sa chemise hors des manches, puis reprenait les journaux qu'il avait déjà lus le matin. Il les recommençait de la première ligne à la dernière, y compris les réclames, demandes d'emploi, annonces, codes de la bourse et programmes de théâtre. Entre 4 et 6 heures, il allait faire un tour sur les boulevards pour prendre l'air, disait-il. Puis il revenait s'asseoir à la place qu'on lui avait conservée et demandait son absinthe. Alors il causait avec les habitués dont il avait fait la connaissance. Il commentait les nouvelles du jour, les faits divers et les événements politiques. Cela le menait à l'heure du dîner. La soirée se passait comme l'après-midi jusqu'au moment de la fermeture. C'était pour lui l'instant terrible où il fallait rentrer dans le noir, dans la chambre vide, pleine de souvenirs affreux, de pensées horribles et d'angoisses. Il ne voyait plus personne de ses anciens amis, personne de ses parents, personne qui pût lui rappeler sa vie passée. Mais comme son appartement devenait un enfer pour lui, il prit une chambre dans un grand hôtel, une belle chambre d'entresol, afin de voir les passants. Il n'était plus seul en ce vaste logis public. Il sentait grouiller des gens autour de lui. Il entendait des voix derrière les cloisons. Et quand ses anciennes souffrances le harcelaient trop, cruellement, en face de son lit entrouvert et de son feu solitaire, il sortait dans les larges corridors et se promenait comme un factionnaire le long de toutes les portes fermées, en regardant avec tristesse les souliers accouplés devant chacune, les mignonnes bottines de femmes blotties à côté des fortes bottines d'hommes. Et il pensait que tous ces gens-là étaient heureux, sans doute, et dormaient tendrement, côte à côte ou embrassés, dans la chaleur de leur couche. 5 années se passèrent ainsi. 5 années mornes, sans autres événements que des amours de 2 heures à 2 louis de temps en temps. Or, un jour, comme il faisait sa promenade ordinaire entre la Madeleine et la rue Drouot, il aperçut tout à coup une femme dont la tournure le frappa. Un grand monsieur et un enfant l'accompagnaient. Tous les trois marchaient devant lui. Il se demandait « Mais où donc ai-je vu ces personnes-là ?» Et tout à coup, il reconnut un geste de la main, c'était sa femme avec Limousin, et avec son enfant, son petit Georges. Son cœur battait à l'étouffer, Il ne s'arrêta pas, cependant, il voulait les voir, et il les suivit. On lui dit un ménage, un bon ménage, de bon bourgeois. Henriette s'appuyait au bras de Paul, lui parlait doucement, regardant parfois de côté. Parent la voyait alors de profil, reconnaissait la ligne gracieuse de son visage, les mouvements de sa bouche, son sourire et la caresse de son regard. L'enfant surtout le préoccupait. Comme il était grand et fort, Perron ne pouvait apercevoir la figure, mais seulement de longs cheveux blonds qui tombaient sur le col en boucles frisées. C'était Georget, le haut garçon aux lampes nues, qui allait ainsi qu'un petit homme à côté de sa mère. Comme il s'était arrêté devant un magasin, il les vit soudain tous les trois. Limousin avait blanchi, vieilli, maigri. Sa femme, au contraire, plus fraîche que jamais, avait plutôt engraissé. Georges était devenu méconnaissable, si différent de jadis. Ils se remirent en route. Parent les suivit de nouveau, puis le devança à grands pas pour revenir et les revoir de tout près en face. Quand il passa contre l'enfant, il eut envie, une envie folle de le saisir dans ses bras et de l'emporter. Il le toucha, comme par hasard. Le petit tourna la tête et regarda ce maladroit avec des yeux mécontents. Alors, parent s'enfuit, frappé et poursuivi, blessé par ce regard. Il s'enfuit de la façon d'un voleur, saisi de la peur horrible d'avoir été vu et reconnu par sa femme et son amant. Il alla d'une course jusqu'à sa brasserie et tomba haletant sur sa chaise. Il but 3 absinthes ce soir-là. Pendant 4 mois, il garda au cœur la plaie de cette rencontre. Chaque nuit, il les revoyait tous les trois, heureux et tranquilles, père, mère, enfant, se promenant sur le boulevard avant de rentrer dîner chez eux. Cette vision nouvelle effaçait l'ancienne. C'était autre chose, une autre hallucination maintenant, et aussi une autre douleur. Le petit Georges, son petit Georges, celui qu'il avait tant aimé et tant embrassé jadis, disparaissait dans un passé lointain et fini, et il envoyait un nouveau, comme un frère du premier, un garçonnet au mollet nu, qui ne le connaissait pas, celui-là. Il souffrait affreusement de cette pensée. L'amour du petit était mort. Aucun lien n'existait plus entre eux. L'enfant n'avait pas tendu les bras en le voyant. Il avait même regardé d'un air méchant. Puis, peu à peu, son âme se calma encore. Ses tortures mentales s'affaiblirent. L'image apparue devant ses yeux et qui hantait ses nuits devint indécise, plus rare. Il se remit à vivre à peu près comme tout le monde, comme tous les désœuvrés qui boivent des bocs sur des tables de marbre et usent leurs culottes par le fond sur le velours râpé des banquettes. Il vieillit dans la fumée des pipes, perdit ses cheveux sous la flamme du gaz, considéra comme des événements le bain de chaque semaine, la taille de cheveux de chaque quinzaine, l'achat d'un vêtement neuf ou d'un chapeau. Quand il arrivait à sa brasserie coiffé d'un nouveau couvre-chef, il se contemplait longuement dans la glace avant de s'asseoir, le mettait et l'enlevait plusieurs fois de suite, le posait de différentes façons et demandait enfin à son ami, la dame du comptoir, qu'il regardait avec intérêt. « Trouvez-vous qui me va bien ?» 2 ou 3 fois par an, il allait au théâtre. Et l'été, il passait quelquefois ses soirées dans un café-concert des Champs-Élysées. Il en rapportait dans sa tête des airs qui chantaient au fond de sa mémoire pendant plusieurs semaines et qu'il fredonnait, même en battant la mesure avec son pied, lorsqu'il était assis devant son boc. Les années se suivaient, lentes, monotones et courtes, parce qu'elles étaient vides. il ne les sentait pas glisser sur lui. Il allait à la mort, sans remuer, sans s'agiter, assis en face d'une table de brasserie. Et seul à la grande glace, où il appuyait son crâne plus dénudé chaque jour, reflétait les ravages du temps qui passe et fuit en dévorant les hommes, les pauvres hommes. Il ne pensait plus que rarement à présent au drame affreux où il avait sombré sa vie, car 20 ans s'étaient écoulés depuis cette soirée effroyable. Mais l'existence qu'il s'était faite ensuite l'avait usé, amolli, épuisé. Et souvent, le patron de sa brasserie, le 6e patron depuis son entrée dans cet établissement, lui disait « Vous devriez vous secouer un peu, monsieur Parent. Vous devriez prendre l'air, aller à la campagne. Je vous assure que vous changerez beaucoup depuis quelques mois. » Et quand son client venait de sortir, ce commerçant communiquait ses réflexions à sa caissière. « Le pauvre monsieur Parent fit le mauvais coton. Ça vaut rien de ne jamais quitter Paris. Engagez-le donc, allez aux environs, mangez une matelote de temps en temps, puisqu'il a confiance en vous. Voilà bientôt l'été, ça le retapera. » Et la caissière, pleine de pitié et de bienveillance pour ce consommateur obstiné, répétait chaque jour à Parent « Voyons, monsieur, décidez-vous à prendre l'air. C'est si joli, la campagne, quand il fait beau. Oh, moi, si je pouvais, je passerais ma vie là-bas. » Et elle lui communiquait ses rêves, les rêves poétiques et simples de toutes les pauvres filles enfermées d'un bout à l'autre de l'année derrière les vitres d'une boutique et qui regardent passer la vie factice et bruyante de la rue en songeant à la vie calme et douce des champs, à la vie sous les arbres, sous le radieux soleil qui tombe sur les prairies, sur les bois profonds, sur les claires rivières, sur les vaches couchées dans l'herbe, et sur toutes les fleurs diverses, toutes les fleurs libres, bleues, rouges, jaunes, violettes, lilas, roses, blanches, si gentilles, si fraîches et si parfumées, toutes les fleurs de la nature qu'on cueille en se promenant et dont on fait de gros bouquets. Elle prenait plaisir à lui parler sans cesse de son désir éternel, irréalisé et irréalisable. Et lui, pauvre vieux, sans espoir, prenait plaisir à l'écouter. Il venait s'asseoir maintenant à côté du comptoir pour causer avec Mademoiselle Zoé et discuter sur la campagne avec elle. Alors, peu à peu, une vague envie lui vint d'aller voir une fois s'il faisait vraiment si bon qu'elle le disait, hors des murs de la grande ville. Un matin, il demanda « Savez-vous, on peut bien déjeuner aux environs de Paris ?» Elle répondit « Mais allez donc à la terrasse de Saint-Germain, c'est si joli !» Il s'y était promené autrefois, au moment de ses fiançailles. Il se décida à y retourner. Il choisit un dimanche, sans raison spéciale, uniquement parce qu'il est d'usage de sortir le dimanche, même quand on ne fait rien en semaine. Donc il partit un dimanche matin pour Saint-Germain. C'était au commencement de juillet par un jour éclatant et chaud. Assis contre la portière de son wagon, il regardait courir les arbres et les petites maisons bizarres des alentours de Paris. Il se sentait triste, ennuyé d'avoir cédé à ce désir nouveau, d'avoir rompu ses habitudes. Le paysage, changeant et toujours pareil, le fatiguait. Il avait soif. Oh, il serait volontiers descendu à chaque station pour s'asseoir au café aperçu derrière la gare, boire un boc ou deux et reprendre le premier train qui passerait vers Paris. Et puis le voyage lui semblait long, très long. Il restait ainsi des journées entières, pourvu qu'il eût sous les yeux les mêmes choses immobiles. Mais il trouvait énervant et fatigant de rester assis en changeant de place, de voir remuer le pays tout entier, tandis que lui-même ne faisait pas un mouvement. Il s'intéressa à la Seine, cependant, chaque fois qu'il la traversa. Sous le pont de Chatou, Il aperçut des yoles qui passaient, enlevées à grands coups d'aviron par des canotiers aux bras nus. Et il pensa: Ah, voilà des gaillards qui ne doivent pas s'embêter. Le long ruban de rivière déroulé des deux côtés du pont du Pec éveilla, dans le fond de son cœur, un vague désir de promenade au bord des berges. Mais le train s'engouffra sous le tunnel qui précède la gare de Saint-Germain pour s'arrêter bientôt au quai d'arrivée. Parent descendit et, alourdi par la fatigue, s'en alla, les mains derrière le dos, vers la terrasse. Puis, parvenu contre la balustrade de fer, il s'arrêta pour regarder l'horizon. La plaine immense s'étalait en face de lui, vaste comme la mer, toute verte et peuplée de grands villages, aussi populeux que des villes. Des routes blanches traversaient ce large pays, des bouts de forêt le boisaient par places, les étangs du Vésinet brillaient comme des plaques d'argent, et les coteaux lointains du Sannois et d'Argenteuil se dessinaient sous une brume légère et bleuâtre qui les laissait à peine deviner. Le soleil baignait de sa lumière abondante et chaude tout le grand paysage un peu voilé par les vapeurs matinales, par la sueur de la terre chauffée s'exhalant en brouillard menu et par les souffles humides de la Seine qui se déroulait comme un serpent sans fin à travers les plaines, contournait les villages et longeait les collines. Une brise molle, pleine de l'odeur des verdures et des sèves, caressait la peau, pénétrait au fond de la poitrine, semblait rajeunir le cœur, alléger l'esprit, vivifier le sang. Parent, surpris, la respirait largement, les yeux éblouis par l'étendue du paysage, et il murmura: « Tiens, on est bien ici !» Puis il fit quelques pas et s'arrêta de nouveau pour regarder. Il croyait découvrir des choses inconnues et nouvelles, non point les choses que voyait son œil, mais des choses que pressentait son âme, des événements ignorés, des bonheurs entrevus, des joies inexplorées, tout un horizon de vie qu'il n'avait jamais soupçonné et qui s'ouvrait brusquement devant lui en face de cet horizon de campagne illimitée. Toute l'affreuse tristesse de son existence lui apparut illuminée par la clarté violente qui inondait la terre. Il vit ses 20 années de café, morne, monotone, navrante. Il aurait pu voyager, comme d'autres, s'en aller là-bas, chez des peuples étrangers, sur des terres peu connues, au-delà des mers, s'intéresser à tout ce qui se passionne les autres hommes, aux arts, aux sciences, aimer la vie aux mille formes, la vie mystérieuse, charmante ou poignante, toujours changeante, toujours inexplicable et curieuse. Maintenant, il était trop tard. Il irait de boc en boc jusqu'à la mort, sans famille, sans amis, sans espérance, sans curiosité pour rien. Une détresse infinie l'envahit, et une envie de se sauver, de se cacher, de rentrer dans Paris, dans sa brasserie et dans son engourdissement. Toutes les pensées, tous les rêves, tous les désirs qui dorment dans la paresse des cœurs stagnants s'étaient réveillés et remués par ce rayon de soleil sur les plaines. Il sentit que, s'il demeurait seul plus longtemps en ce lieu, il allait perdre la tête, et il gagna bien vite le pavillon Henri IV pour déjeuner, s'étourdir avec du vin et de l'alcool et parler à quelqu'un au moins. Il prit une petite table dans les bosquets dont on domine toute la campagne, fit son menu et pria qu'on le servît tout de suite. D'autres promeneurs arrivaient, s'asseyaient aux tables voisines. Ils se sentaient mieux, ils n'étaient plus seuls. Dans une tonnelle, 3 personnes déjeunaient. Il les avait regardées plusieurs fois sans les voir, comme on regarde les indifférents. Et tout à coup, une voix de femme jeta en lui un de ces frissons qui font tressaillir les moelles. Elle avait dit, cette voix, « Georges, tu vas découper le poulet. » Et une autre voix répondit, « Oui, maman. » Parent leva les yeux. Et il comprit il devina tout de suite quels étaient ces gens. Oh, certes, il ne les aurait pas reconnus. Sa femme était toute blanche, très forte, une vieille dame sérieuse et respectable, et elle mangeait en avançant la tête par crainte des taches, bien qu'il eût recouvert ses seins d'une serviette. Georges était devenu un homme. Il avait de la barbe, de cette barbe inégale et presque incolore qui frisonne sur les joues des adolescents. Il portait un chapeau de forme, un gilet de coutil blanc et un monocle, par chic sans doute. Parent le regardait stupéfait. C'était là Georges, son fils? Oh non, il ne connaissait pas ce jeune homme. Il ne pouvait rien exister de commun entre eux. Limousin tournait le dos et mangeait, les épaules un peu voûtées. Donc ces trois êtres semblaient heureux et contents. Ils venaient déjeuner à la campagne, en des restaurants connus. Ils avaient eu une existence calme et douce, une existence familiale dans un bon logis chaud et peuplé, peuplé par tous les riens qui font la vie agréable, par toutes les douceurs de l'affection, par toutes les paroles tendres qu'on échange sans cesse quand on s'aime. Ils avaient vécu ainsi, grâce à lui, parent, avec son argent, après l'avoir trompé, volé, perdu. Il l'avait condamné, lui, l'innocent, le naïf, le débonnaire, à toutes les tristesses de la solitude, à l'abominable vie qu'il avait menée entre un trottoir et un comptoir, à toutes les tortures morales et à toutes les misères physiques. Ils avaient fait de lui un être inutile, perdu, égaré dans le monde, un pauvre vieux, sans joie possible, sans attente, qui n'espérait rien de rien et de personne. Pour lui, la terre était vide, parce qu'il n'aimait rien sur la terre. Il pouvait courir les peuples, courir les rues, entrer dans toutes les maisons de Paris, ouvrir toutes les chambres, il ne trouverait derrière aucune porte la figure cherchée, chérie, figure de sa femme, ou figure d'enfant qui sourit en vous apercevant. Et cette idée, surtout, le travaillait, l'idée de la porte qu'on ouvre pour trouver et embrasser quelqu'un derrière. Et c'était la faute de ces trois misérables, cela, la faute de cette femme indigne, de cet ami infâme, et de ce grand garçon blond qui prenait des airs arrogants. Il en voulait maintenant à l'enfant autant qu'aux deux autres. N'était-il pas le fils de Limousin? Est-ce que Limousin le regardait, aimait sans cela? Est-ce que Limousin n'aurait pas lâché bien vite la mère et le petit s'il n'avait pas su que le petit était à lui, bien à lui? Est-ce qu'on élève les enfants des autres? Donc ils étaient là, tout près, ces trois malfaiteurs qu'il avait tant fait souffrir. Parents les regardaient, s'irritant, s'exaltant au souvenir de toutes ces douleurs, de toutes ces angoisses, de tous ces désespoirs. Ils s'exaspéraient surtout de leur air placide et satisfait. Il avait envie de les tuer et de leur jeter son siphon d'eau de Seltz, de vendre la tête de Limousin, qu'il voyait à toute seconde se baisser vers son assiette et se relever aussitôt. Et il continuerait à vivre ainsi, sans souci, sans inquiétude d'aucune sorte. Non, 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 c'en était trop à la fin. Il se vengerait. Il allait se venger tout de suite, puisqu'il les tenait sous la main. Mais comment? Il cherchait, rêvait des choses effroyables, comme il en arrive dans les feuilletons, mais ne trouvait rien de pratique. Et il buvait coup sur coup pour s'exciter, pour se donner du courage, pour ne pas laisser échapper une pareille occasion qu'il ne retrouverait sans doute jamais. Soudain, il eut une idée terrible, et il cessa de boire pour la mûrir. Un sourire plissait ses lèvres. Il murmurait « Je les tiens, je les tiens, oh, nous allons voir, oh, nous allons voir. » Un garçon lui demanda « Qu'est-ce que monsieur désire ensuite ?» Oui, du café, du cognac, du meilleur. Et il les regardait en sirotant ses petits verres. Il y avait trop de monde dans ce restaurant pour ce qu'il voulait faire. Donc il l'attendrait, il les suivrait, car ils allaient se promener certainement sur la terrasse ou dans la forêt. Et quand ils seraient un peu éloignés, il les rejoindrait et alors il se vengerait, oui, il se vengerait. Il n'était pas trop tôt d'ailleurs, après 23 ans de souffrance. Ah, ils ne soupçonnaient guère ce qu'allait leur arriver. Ils achevaient doucement leur déjeuner en causant avec sécurité. Parents ne pouvaient entendre leurs paroles, mais ils voyaient leurs gestes calmes. La figure de sa femme surtout l'exaspérait. Elle avait pris un air hautain, un air de dévote grâce, de dévote inabordable, cuirassée de principes, blindée de vertus. Puis ils payèrent l'addition et se levèrent. Alors il vit Limousin. On eût dit un diplomate en retraite, tant il semblait important avec ses beaux favoris souples et blancs dont les pointes tombaient sur les revers de sa redingote. Ils sortirent. Georges fumait un cigare et portait son chapeau sur l'oreille. Parent aussitôt les suivit. Ils firent d'abord un tour sur la terrasse et admirèrent le paysage avec placidité, comme admirent les gens repus. Puis ils entrèrent dans la forêt. Parent se frottait les mains et les suivait toujours de loin, en se cachant pour ne point éveiller trop tôt leur attention. Ils allaient à petits pas, prenant un bain de verdure et d'air tiède. Henriette s'appuyait au bras de Limousin et marchait droite à son côté, en épouse sûre et fière d'elle. Georges abattait des feuilles avec sa badine et franchissait parfois les fossés de la route d'un saut léger de jeune cheval ardent, prêt à s'emporter dans le feuillage. Parent, peu à peu, se rapprochait, haletant d'émotion et de fatigue, car il ne marchait plus jamais. Bientôt il les rejoignit, mais une peur l'avait saisi, une peur confuse, inexplicable. Il les devança pour revenir sur eux et les aborder en face. Il allait, le cœur battant, les sentant derrière lui maintenant, et il se répétait. Alors, c'est le moment de l'audace. De l'audace, c'est le moment. Il se retourna. Ils s'étaient assis tous les trois sur l'herbe au pied d'un gros arbre et ils causaient toujours. Alors il se décida et il revint à pas rapide. S'étant arrêté devant eux, debout au milieu du chemin, il balbutia d'une voix brève, d'une voix cassée par l'émotion. C'est moi, me voici, vous ne m'attendiez pas. Tous trois examinaient cet homme qui leur semblait fou. Il reprit. On dirait que vous ne m'avez pas reconnu. Mais regardez-moi donc. Je suis Parent, Henri Parent, hein? Ah, vous ne m'attendiez pas. Vous pensiez que c'était fini, bien fini, que vous ne me reverriez plus jamais, jamais. Ah, mais non, me voilà revenu. Nous allons vous expliquer maintenant. Henriette, effarée, cacha sa figure dans ses mains en murmurant. Oh, mon Dieu! Voyant cet inconnu qui semblait menacer sa mère, Georges s'était levé, prêt à le saisir au collet. Limousin, atterré, regardait avec des yeux effarés ce revenant qui, ayant soufflé quelques secondes, continua. Alors, nous allons nous expliquer maintenant. Voici le moment venu. Ah, vous m'avez trompé. Vous m'avez condamné à une vie de forçat, et vous avez cru que je ne vous rattraperais pas. Mais le jeune homme le prit par les épaules et le repoussant. Êtes-vous fou? Qu'est-ce que vous voulez? Passez votre chemin bien vite ou je vais vous rosser, moi. Parent répondit. Ce que je veux, mais je veux t'apprendre ce que sont ces gens-là. Mais Georges, exaspéré, le secouait, allait le frapper. L'autre reprit. Lâche-moi donc, je suis ton père. Tiens, regarde s'ils me reconnaissent maintenant, ces misérables. Effaré, le jeune homme ouvrit les mains et se tourna vers sa mère. Parent libre s'avança vers elle. Ha! Dites-lui qui je suis, vous. Dites-lui que je m'appelle Henri Parent et que je suis son père, puisqu'il se nomme Georges Parent, puisque vous êtes ma femme, puisque vous vivez tous les trois de mon argent, de la pension de 10 000 francs que je vous fais depuis que je vous ai chassé de chez moi. Dites-lui aussi pourquoi je vous ai chassé de chez moi. Parce que je vous ai surprise avec ce gueux, cet infâme avec votre amant. Dites-lui ce que j'étais, moi, un brave homme, épousé par vous pour ma fortune, et trompé depuis le premier jour. Dites-lui qui vous êtes et qui je suis. Il balbutiait, haletait, emporté par la colère. La femme cria d'une voix déchirante. « Paul, Paul, empêche-le, qu'il se taise, empêche-le, qu'il le dise pas cela devant mon fils. » Limousin, à son tour, s'était levé. Il murmura d'une voix très basse. « Taisez-vous, taisez-vous, comprenez donc ce que vous faites. » Parent reprit avec emportement. « Je le sais bien, ce que je fais. Ce n'est pas tout. Il y a une chose que je veux savoir, une chose qui me torture depuis 20 ans. » Puis se tournant vers Georges, éperdu, qui s'était appuyé contre un arbre. « Écoute, toi, quand elle est partie me désespérer de chez moi, elle a pensé que ce n'était pas assez de m'avoir trahi. Tu étais toute ma consolation. Eh bien, elle t'a emporté en me jurant que je n'étais pas ton père, mais que ton père, c'était lui. A-t-elle menti? Je ne sais pas. Depuis 20 ans, je me le demande. » Il s'avança tout près d'elle, tragique, terrible, et arrachant la main dont elle se couvrait la face. « Eh bien, je vous somme aujourd'hui de me dire lequel de nous est le père de ce jeune homme. Lui ou moi? Votre mari ou votre amant? Allons, allons, dites !» Limousin se jeta sur lui. Parent le repoussa et, ricanant avec fureur, « Ah, tu es brave aujourd'hui. Tu es plus brave que le jour où tu te sauvais sur l'escalier parce que j'allais t'assommer. » « Eh bien, si elle ne répond pas, réponds toi-même. Tu dois le savoir aussi bien qu'elle. Dis, es-tu le père de ce garçon? Allons, 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 parle !» Il revint vers sa femme. « Et si vous ne voulez pas me le dire à moi, dites-le à votre fils, au moins. C'est un homme aujourd'hui. Il a bien le droit de savoir qui est son père. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais su, jamais, jamais. Je ne veux pas te le dire, mon garçon. » Il s'affolait, sa voix prenait des tons aigus, et il agitait ses bras comme un épileptique. « Voilà, voilà, répondez donc. Elle ne sait pas, je parie qu'elle ne sait pas. Non, elle ne sait pas, parbleu. Elle couchait avec tous les deux. Personne ne sait, personne. Est-ce qu'on sait ces choses-là? Tu ne le sauras pas non plus, mon garçon. » Tu ne sauras pas, pas plus que moi. Jamais. Tiens, demande-lui, demande-lui. Tu verras qu'elle ne sait pas. Moi non plus, lui non plus, toi non plus. Personne ne sait. Tu peux choisir, oui, tu peux choisir, lui ou moi. Choisis, et bonsoir. C'est fini. Si elle se décide à te le dire, tu viendras me l'apprendre, hôtel des continents, n'est-ce pas? Ça me fera plaisir de le savoir. Bonsoir. Je vous souhaite beaucoup d'agrément. » Et il s'en alla en gesticulant, continuant à parler seul, sous les grands arbres, dans l'air vide et frais, plein d'odeur de sève. Il ne se retourna point pour les voir. Il allait devant lui, marchant sous une poussée de fureur, sous un souffle d'exaltation, l'esprit emporté par son idée fixe. Tout à coup, il se trouva devant la gare. Un train partait, il monta dedans. Durant la route, sa colère s'apaisa. Il reprit ses sens et il rentra dans Paris, stupéfait de son audace. Il se sentait brisé, comme si on lui eût rompu les os. Il alla cependant prendre un bock à la brasserie. En le voyant entrer, Mademoiselle Zoé, surprise, lui demanda « Déjà revenu? Est-ce que vous êtes fatigué ?» Il répondit « Oui, très fatigué. Oh, très fatigué. Vous comprenez, quand on n'a pas l'habitude de sortir, oh non, c'est fini, je ne retournerai point à la campagne. J'aurais mieux fait de rester ici. Désormais, je ne bougerai plus. » Et elle ne put lui faire raconter sa promenade, malgré l'envie qu'elle en avait. Pour la première fois de sa vie, il se grisa tout à fait ce soir-là. Et on dut le rapporter chez lui. Février 1886.